Bonjour à tous. Cette semaine, l'écho se glisse dans l'univers des travailleurs indépendants, des avocats ou livreurs à vélo, en passant par les petits commerçants qui tous ont vu leur activité bouleversée par le reconfinement. Face à la pandémie et à la crise qui l'accompagne, les indépendants sont en première ligne et c'est leur poids économique, social et politique qui nous intéresse cette semaine. Mais avant cela, allons regarder du côté des caisses de l'État. Alors que la dette publique flirte avec les 120% du PIB, les sommes débloquées ne servent-elles qu'à à éteindre l'incendie ou prépare-t-elle le futur? Ouvrez grand vos oreilles, c'est l'heure sur France Culture d'entendre l'écho. Nous allons parler de l'endettement public et du redressement de l'économie en compagnie d'Anne-Laure Delatte, économiste chargée de recherche au CNRS et chercheuse associée à l'université Paris-Dauphine. En compagnie également d'Éric Chanet, conseiller économique de l'Institut Montaigne, et d'Éric Monet, économiste, professeur à la Paris School of Economics et directeur d'études à l'EHESS. Une émission qui n'aurait pas existé en tant que telle sans le précieux soutien des livres, à commencer par l'ouvrage collectif d'Éric Monet, Euro, les années critiques, paru aux presses universitaire de France. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui depuis chez vous. Je voudrais d'abord vous faire entendre un texte d'un banquier suisse qui a été brièvement ministre des Finances de Louis XVI, Étienne Clavière. Nous sommes en juin 1789 et le Royaume de France est confronté à l'effondrement des finances publiques. Voilà ce qu'écrit alors le financier genevois qui se déclare lui-même créancier de l'État.
On ne connaît pas jusqu'où les États peuvent porter les emprunts sans y succomber. En Angleterre, les calculateurs politiques y prédisent depuis si longtemps une banqueroute qui n'arrive point, qu'on serait tenté d'ajouter foi à ces romans ingénieux où, faisant de la dette publique une cause de prospérité, on établit entre ces deux choses un rapport dans lequel on prétend trouver que l'une se soutient par l'autre. Mais, comme les nations et leur sol ne se ressemblent pas mieux que les individus, ce roman, fût-il vrai dans une île privée de communication extérieure, n'est qu'un rêve d'agioteur. Le commerce a établi entre tous les produits, toutes les industries, tous les numéraires et tous les crédits, de toutes les parties du globe, des rapports tels que le prix des choses suit maintenant des lois qu'aucun gouvernement n'est en état de limiter chez lui. Il suit de là que si les emprunts publics doivent toujours s'accroître en raison inverse des remboursements, la banqueroute en serait tôt ou tard le terme. Le taux de l'intérêt croîtrait avec eux. Ce taux est donc le thermomètre qu'il faut observer.
Un texte de juin 1789, lu par notre réalisatrice Anna Holweck, et qui nous permet de situer la question de la dette, très, très présente dans le débat public aujourd'hui, dans une histoire plus longue. L'endettement public, Éric Monet, c'est à la fois une source de prospérité future et un risque de faillite, comme l'écrit ici Étienne Clavière.
Alors tout à fait, ça je pourrais dire que c'est en temps normal. Et là on voit que nous faisons face à des temps qui... Si l'on suit le raisonnement de Clavière et la théorie économique assez simple qu'on a tous appris, on se rend compte que les temps sont assez différents de ce rapport qu'énonçait Clavière, qui pourrait sembler assez simple entre le taux de la dette publique et la quantité de la dette publique, et qui disait que si la dette publique augmente trop, le taux va révéler qu'elle est trop risquée. Et on voit actuellement que les ratios de dette publique ont augmenté à des niveaux rarement atteints dans l'histoire, même en temps de guerre. Et pourtant, le prix de la dette publique, reste élevé, et donc le taux reste très faible. C'est-à-dire que les gens veulent de la dette publique, en dépit du fait qu'elle soit accumulée dans des proportions jamais très peu connues auparavant.
Donc ce que vous nous dites, Éric Monet, c'est que les taux d'intérêt ne sont plus le thermomètre dont parlait Étienne Clavière?
Alors, ça dépend de quel mot ce thermomètre doit indiquer. Ce qu'on observe ici, en fait, avec des taux très bas, Ce que cela indique, c'est que il y a beaucoup d'appétit pour des actifs qui sont jugés très peu risqués, très très sûrs. Et la dette publique apparaît comme ce type d'investissement, cet actif envers qui les investisseurs, la plupart des investisseurs se sont mis d'accord, on va dire, plus ou moins d'ailleurs consciemment, sans doute presque assez consciemment, pour dire que c'est l'actif sûr, le véritable actif sûr de l'économie vers qui tout le monde doit se tourner dans cette période de grande incertitude. Et cela, c'est avec la crise financière, la crise sanitaire actuelle, on le voit encore de manière très claire, mais ça l'a commencé bien avant. Ça a commencé dès le début de l'année 2000. On voit que les taux d'intérêt s'effondrent, baissent énormément. Et la dette publique, mais comme aussi, je dirais, le prix de l'immobilier dans les grandes villes, devient cet actif refuge. Et donc, dans une situation comme celle-ci, la responsabilité sur la gestion de l'épargne et de l'investissement revient à cet émetteur de l'actif sûr qu'est l'État. Et donc, c'est une situation qui est, selon moi, vraiment très, très différente de la situation dont parlait Clavière en 1789.
Anne-Laure Delatte, que vous inspire ce texte de 1789 par rapport à la réalité que l'on vit aujourd'hui ?
Le premier commentaire, c'est que ça fait longtemps qu'on s'intéresse à la dette publique en réalité et qu'on a besoin des marchés pour financer la dépense publique. Donc c'est intéressant effectivement que vous reveniez sur cet épisode, sur cette période, pour montrer qu'il y a une continuité en réalité. Maintenant, effectivement, on est dans une situation très particulière aujourd'hui. Je dirais qu'on a le taux d'intérêt, pour répondre à votre question, est toujours un bon indicateur. Sauf que ce qu'il indique, c'est qu'effectivement, il y a une forte demande pour l'actif sûr qui est la dette publique française ou la dette publique allemande ou la dette publique américaine. Et pour revenir sur ce que disait Éric Monnet à l'instant, je pense que c'est intéressant de comprendre pourquoi il y a une telle demande. Alors, on a une raison qui est réglementaire. Vous avez beaucoup d'acteurs financiers qui ont besoin de titres sûrs, comme on appelle ça du collatéral. En gros, pour des raisons réglementaires de fonctionnement des marchés financiers, on a besoin d'avoir pas mal de cet actif sûr dans les bilans. Les régulateurs pourraient jouer avec ça et pourraient, en réalité, durcir les réglementations pour demander, pour accroître cette demande, ce qui ferait encore plus baisser le taux d'intérêt. Bon, mais il y a plein d'inconvénients à ça. L'autre raison qu'on commence à comprendre, et là qui me semble beaucoup plus intéressante en termes de choix public, c'est que la raison pour laquelle on a une énorme demande de titres publics et aussi d'actifs sûrs en général, donc l'immobilier à Paris, comme le disait à l'instant Éric Monnet, c'est qu'on a beaucoup de riches. En fait, on a une accumulation d'épargne sur les ménages les plus riches, dans ce qu'on appelle le 10%, le 5% du haut de la distribution. Et en réalité, vous ne le mangez pas, votre argent. C'est-à-dire qu'à un moment, vous ne pouvez pas consommer indéfiniment. Et plus vous accumulez des revenus, plus la part d'épargne est importante sur votre revenu.
Et la question qu'on va se poser, c'est si jamais c'est cet argent, que ce soit sous forme d'épargne ou sous autres formes, est à nouveau injecté dans l'économie réelle et permet réellement la relance. On va en parler bien sûr, mais je voudrais d'abord peut-être entendre d'abord Éric Chanet sur le texte d'Étienne Clavière et sur ce premier constat autour du succès des obligations d'État qui sont cette valeur refuge aujourd'hui pour les investisseurs.
Oui, alors si vous m'aviez dit que ce texte datait d'il y a 20 ans, j'aurais dit bof bof. Mais un texte du XVIIIe siècle qui exprime les choses avec autant de clarté, je trouve ça remarquable. Alors, évidemment, les temps ont changé. Éric Monnet a absolument raison de le signaler. Beaucoup d'États ont fait faillite quand même dans l'histoire. Donc, cette question du taux d'intérêt comme pouvant signaler des risques, il n'y a qu'à demander au président Erdogan ou aux autorités argentines, elles savent bien que le taux d'intérêt reflète bien le risque sur leur propre dette. Mais dans nos pays, disons États-Unis, Japon, zone euro et Royaume-Uni, c'est assez différent. Alors, je vais quand même ajouter quelques éléments pour compléter ce qui a été dit par Éric Monnet et Anne-Laure Delattre. La préférence pour les actifs sans risque, c'est vrai que c'est un sujet qui est très important. Je pourrais dire même que ça a commencé avec la dernière phase de la mondialisation, quand la Chine a fait le choix de son développement par les exportations, après être entrée à l'OMC. Toutes les recettes d'exportation, donc les excédents commerciaux, ont été réinvestis. Et pour les dirigeants chinois, il n'y avait pas de question. Il fallait l'investir. C'était, dans le fond, le travail des masses chinoises qui étaient dans un état d'extrême pauvreté. Ça devait être investi dans l'actif le plus sûr et le plus liquide, celui qu'on peut vendre et acheter comme on veut, qui existe dans le monde, c'est-à-dire les bons du Trésor américain. Et ceci a contribué, a commencé à faire baisser les taux d'intérêt. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les Chinois, d'ailleurs, ils ne le font plus, qui sont des acteurs hors du marché et qui achètent des quantités massives de dettes publiques. Et vous savez que quand on achète, on fait monter le prix et donc, dans le cas de la dette, on fait baisser le taux d'intérêt. Ce sont évidemment les banques centrales.
Alors j'allais y venir, effectivement.
C'est
le rôle des banques centrales qui est aujourd'hui mis en valeur et qui change véritablement la donne, puisque c'est notamment la Banque Centrale Européenne, Eric Chanet, qui achète aujourd'hui ces actifs et qui permettent aux taux de rester aussi bas, aux États de s'endetter avec des taux aussi bas.
Alors, il y a presque un mouvement, si je puis dire, qui s'auto-entretient. La Banque Centrale qui est allée le plus loin dans les achats de dette publique, c'est la Banque Centrale du Japon, puisqu'aujourd'hui, c'est plus de 50% de la dette publique qui est dans ses coffres, si je puis dire. Donc, quand vous avez un acheteur qui achète sans même regarder le prix, ce qui est le cas des banques centrales, ceci fait monter le prix, et comme les banques centrales disent qu'elles vont continuer à le faire, ceci convainc les acteurs privés qu'il faut le faire, il vaut mieux avoir, si je puis dire, dans ses comptes une dette, un actif financier, sachant que la Banque centrale va l'acheter dans le futur. Donc vous avez raison, aujourd'hui les banques centrales, je dirais, ne sont pas les seules, mais elles contribuent, et c'est d'ailleurs leur objectif, à garder les taux d'intérêt. Alors les taux d'intérêt à court terme, elles les contrôlent, ce sont leurs décisions de politique monétaire, mais elles contrôlent aussi les taux d'intérêt à long terme en achetant de la dette publique et en donnant finalement énormément de marge de manœuvre aux États. Pendant la crise Covid, il faut reconnaître que c'est quelque chose d'extrêmement important. Les États ont pu s'endetter pour faire face à cette crise, et ils continuent d'ailleurs à le faire, avec, si je puis dire, un signal très clair des banques centrales, la BCE en particulier, endettez-vous et ne vous préoccupez pas de savoir si vous pourrez placer votre dette sur le marché, nous sommes là pour le faire.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la dette publique devrait atteindre en France 120% du PIB cette année, notamment avec la rectification du budget la semaine dernière par l'Assemblée nationale, puisqu'il y a 20 milliards d'euros supplémentaires qui ont été débloqués afin de venir en aide aux secteurs d'activité les plus touchés par le reconfinement. Éric Monnet, aujourd'hui, on a le sentiment que la dette n'a pas à nous inquiéter véritablement tant que les taux restent bas et tant que une part croissante de notre dette publique est détenue par la Banque Centrale Européenne et non par les acheteurs habituels comme les banques ou les sociétés d'assurance.
Pour revenir sur ce que vous dites sur la part des banques centrales, c'est vrai que les montants sont absolument incroyables. Rappelons qu'aujourd'hui, près d'un tiers de la dette publique française et de la dette publique en fait de tous les États européens est détenu par la Banque centrale, et que depuis mars, donc depuis le premier confinement et le début de la crise liée au Covid, c'est près de 75%, c'est près des trois quarts de la dette publique qui ont été achetés par la Banque centrale européenne, donc trois quarts des émissions de dette publique. Donc on voit qu'effectivement c'est un acteur, la Banque centrale est devenue un acteur absolument central dans l'achat et donc dans la gestion d'une certaine manière de ces dettes. Après, je suis entièrement d'accord avec Éric Chanet sur le fait que les taux seraient sans doute bas. Alors sans doute pas tous les pays, mais les taux de la dette allemande, de la dette française, de la dette américaine, de la dette japonaise seraient sans doute aussi très bas, même si la Banque centrale n'intervenait pas. Et là, il y a tous les facteurs structurels qu'a rappelé Anne-Laure Delattre. Mais c'est vrai que nous sommes dans un cercle où les banques centrales jouent ce rôle, qu'elles veulent encore plus baisser les taux pour essayer que ces taux la baisse de ces taux se transmettent véritablement au reste de l'économie et aux prêts que les banques peuvent faire aux entreprises. Et donc on est dans cette situation qu'on peut qualifier d'une sorte d'équilibre où effectivement il y a des facteurs structurels qui font baisser les taux et les banques centrales accompagnent ces facteurs structurels pour avoir des niveaux de taux extrêmement bas. Et rappelons également, dernier point, que les banques centrales n'achètent pas directement aux États. C'est-à-dire que ça reste les banques qui achètent cette dette publique, sachant, anticipant, intégrant le fait que les banques centrales vont les racheter derrière. Mais les banques restent au cœur de ce circuit de financement de la dette publique. Mmh. Sans cela, les banques centrales devraient sans doute prendre d'autres mesures d'intervention.
Alors, je vous propose justement d'écouter la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui s'exprimait le 11 novembre dernier.
C'est important d'assurer que les conditions de financement vont rester favorables. C'est pourquoi le Conseil des gouverneurs a annoncé le mois dernier qu'il allait recalibrer nos instruments pour répondre de manière appropriée à l'évolution de la situation. Le Conseil est unanime dans son engagement d'assurer des conditions de financement en mesure de soutenir l'activité économique et de contrer l'impact négatif de la pandémie sur les prévisions d'inflation. Dans les semaines à venir, nous aurons plus de données pour décider de ce recalibrage, notamment de meilleurs indices en ce qui concerne le succès des nouvelles mesures de confinement du virus, un nouvel ensemble de projections macroéconomiques et plus de clarté sur les plans fiscaux et les perspectives de déploiement de vaccins.
Voilà, la BCE va donc prolonger son programme d'urgence de rachat de dettes et sa politique de prêt à taux négatif. C'était un discours important, Anne-Laure Delatte, qui montre le soutien de la BCE envers les politiques d'endettement des gouvernements.
Alors oui, je crois qu'il est vraiment important de comprendre que la BCE, quand elle intervient, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on écoute Christine Lagarde là, elle n'intervient pas pour directement aider les États à se financer. Hein. Et elle l'a dit d'ailleurs, et elle l'a dit de façon très maladroite, on lui a reproché le 12 mars, juste en début de pandémie, quand elle a dit « on n'est pas là pour resserrer les spreads », c'est-à-dire pour réduire le taux d'intérêt public. En réalité, rappelons-nous que l'objectif d'une banque centrale, il est de stabiliser les prix. Donc on parle de prix, on parle de prix de marché et pas du prix de la dette. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, en fait, depuis 2008, on a changé d'économie. Hein, on est vraiment dans un système économique qui ne fonctionne pas comme jusqu'à la fin des années 90. On a de plus en plus de mal à faire remonter les prix. C'est-à-dire qu'en fait, on a du mal à faire monter l'activité économique parce que le prix, c'est le reflet de l'activité économique. Et donc, on a des banques centrales partout dans le monde qui ont mis en place des mesures non orthodoxes. Ce qui veut dire, en fait, on est rentré vraiment dans un monde non standard où vous avez des banques centrales qui sont obligées de mettre des taux d'intérêt négatifs. Je crois que vous en avez déjà beaucoup parlé à l'antenne. Ou alors d'acheter directement de la dette d'État. Mais vraiment, que l'auditeur ne s'y trompe pas, Christine Lagarde, elle n'est pas là pour faire de la politique budgétaire, c'est-à-dire pour se substituer à l'impôt. Et au contraire, elle le dit en permanence, et les autres banquiers centraux le disent, nous, on fait juste notre travail pour aller contre les facteurs structurels, là, dont on parlait juste avant, essayer de soutenir l'économie au maximum, sachant qu'on n'y arrive plus. En fait, on a multiplié par presque 10 le bilan de la Banque centrale. Enfin, on a fait des choses extraordinaires qu'on n'apprenait pas à nos étudiants il y a encore 10, 15 ans. Mais maintenant, on a besoin de vous, les États, pour relancer la machine économique en faisant de la politique budgétaire expansionniste. Donc là, ça nous aide énormément en ce moment pendant la crise du Covid. Mais l'objectif de la Banque centrale, c'était surtout d'éviter un effondrement de l'activité qui aurait fait s'effondrer les prix et donc elle n'aurait pas atteint son objectif. Mais vraiment, il faut avoir en tête, voilà, je finis là, mais il faut avoir en tête cette... On est de plus en plus en train d'articuler politique budgétaire et politique monétaire, mais on ne le fait pas de façon très... On ne comprend pas encore très bien comment ça fonctionne.
Bah, on pourrait y revenir, Anne-Laure Delatte, puisque certains voudraient que la politique, enfin que la Banque Centrale Européenne fasse de la politique budgétaire d'une certaine façon en annulant la dette. Mais je voudrais revenir d'abord sur cette question importante de la soutenabilité de cette dette. Donc aujourd'hui, on dit que la dette publique a beau être très importante, atteindre des records, il ne faut pas s'en inquiéter, et cela à condition que les taux ne remontent pas, mais vous l'avez dit, Anne-Laure Delatte, on est dans une économie très particulière. Robert Boyer l'écrit, il dit que les économies semblent être entrées en terra incognita pour la théorie économique. Éric Chanet, il y a beaucoup d'incertitudes au fond autour d'une possible remontée des taux en réalité.
Alors je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'incertitudes à, disons, à court et moyen terme. pour des raisons structurelles très fortes, changement démographique mondial, d'une certaine manière, pousse à acheter des obligations, donc à faire baisser les taux d'intérêt. Et on sait que les banques centrales sont là le temps qu'il faudra pour que l'économie remarche. En revanche, si on se place au moyen-long terme, disons qu'on prenne un horizon qui dépasse les 5 ans, je crois qu'il serait un peu dangereux de parier sur une persistance de taux d'intérêt à long terme très bas. La question qui est derrière, c'est est-ce que nous allons vivre pour les 50 prochaines années ou les 20 ou 30 prochaines années dans un monde à très basse inflation ou du fait d'un déficit de demande à l'échelle mondiale. L'inflation n'est plus tellement un phénomène local, c'est un phénomène mondial. Eh bien, est-ce que ceci restera le cas? Et je pense qu'il y a quand même quelques raisons de penser qu'il faut avoir un point de vue d'analyse de risque à moyen-long terme, au-delà de 5 ans, dans lequel la possibilité que l'inflation monte soit un scénario à envisager. Si l'inflation monte ou si seulement les marchés commencent à anticiper que l'inflation pourrait monter, enfin, je vais quand même rappeler quelques facteurs. La démondialisation, c'est parti, et c'est avec l'administration Biden, peut-être que ça ira moins vite qu'avec l'administration Trump, mais nous sommes rentrés dans ce monde, ça avait commencé d'ailleurs avant la crise Covid. Le vieillissement de la population, ça fait aussi qu'il y a moins d'offres de travail. Il y a beaucoup de dépenses publiques qui viendront du vieillissement de la population, qui amèneront à de la dette et donc une tentation de l'inflation. Bref. Si les marchés commencent à anticiper que l'inflation pourrait revenir à, disons, à horizon de 10 ans, les taux d'intérêt à long terme commenceraient à monter. Et alors là, cette facilité qu'on a à s'endetter, pour les États, mais il faudra qu'on en dise peut-être un mot aussi, les acteurs privés, les entreprises en particulier, deviendra beaucoup plus difficile à refinancer.
Alors, sur ce possible retour de l'inflation, Éric Monnet.
Effectivement, il y a deux facteurs qui pourraient contribuer à une reprise de l'inflation. Alors, reprise, entendons-nous bien, je pense que ce serait une reprise relativement modérée, mais qui on pourrait, disons, retourner sur ce qui est normalement l'objectif de la Banque Centrale Européenne et aussi de la Banque Centrale des États-Unis, autour de 2% d'inflation. Aujourd'hui, on est beaucoup plus proche de 1% que de 2%. Alors, ces deux facteurs, ça serait d'abord que les politiques de banque centrale atteignent leur objectif, c'est-à-dire vraiment, pour l'instant, les banques centrales mettent énormément de moyens à faire remonter l'inflation, mais ça ne marche pas énormément. Et donc, peut-être que si elles utilisent d'autres instruments, finalement, leur politique va atteindre cet objectif. Parce qu'il faut rappeler, mais encore, le but des banques centrales n'est pas de baisser les taux d'intérêt le plus possible. Le taux des banques centrales est d'acheter cette dette publique pour que, in fine, la demande reparte et donc que l'inflation remonte un petit peu et que les taux d'intérêt remontent également. Les deuxièmes points, c'est effectivement le changement lié à la mondialisation, les très bas coûts liés à la fin des frontières douanières, mais aussi au fait de production extrêmement peu chère avec un coût du travail très faible, notamment en Asie, ont beaucoup pesé pour amener une inflation très très basse. Et là, il y a des signes à la fois liés à l'augmentation du coût du travail dans ces pays et puis aussi de liés à la politique commerciale qui pourrait aller dans le sens inverse, comme l'a rappelé Eric Chanet. Le troisième facteur auquel on peut également penser, ça serait peut-être aussi une augmentation des salaires, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, liée notamment à la forte augmentation des inégalités qu'on voit actuellement. C'est-à-dire qu'une politique salariale qui soit plus généreuse et qui réduise les inégalités, c'est quelque chose qui peut arriver. Mmh. On peut être unis. Donc ces facteurs pourraient contribuer à réaugmenter un petit peu l'inflation et donc le taux d'intérêt nominal. Le taux d'intérêt réel, lui, c'est-à-dire auquel on soustrait l'inflation, pourrait rester relativement bas.
Mais alors, est-ce que la Banque centrale atteint son objectif ou pourrait l'atteindre? Vous nous expliquez, Éric Monnet, qu'en effet, elle cherche à recréer un peu d'inflation, à faire repartir la croissance. On peut se demander tout de même quel est l'impact sur l'économie réelle de cette politique monétaire de rachat d'actifs, puisque certains estiment qu'elle a aussi des inconvénients. Elle crée des bulles financières et elle creuse aussi les inégalités en enrichissant les détenteurs d'actifs financiers. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Laure Delatte ?
Alors, il y a toute une littérature là-dessus. Vraiment, les économistes se posent la question et c'est heureux. On a, sur les inégalités, on commence à avoir des résultats. Ce qu'on dit, c'est qu'elle réduit les inégalités de revenus, mais elle augmente les inégalités de patrimoine. Mmh. C'est très simple. En permettant à l'activité économique de, sinon de redémarrer, mais en tout cas de ne pas s'effondrer, elle évite cette politique monétaire très expansionniste, la hausse du chômage, qui aurait donc une conséquence directe sur le revenu des ménages, et en particulier des ménages les moins éduqués, donc le bas de la distribution. Et donc on a des résultats qui me semblent assez maintenant consensuels sur le fait que ça réduit, ça permet de réduire ces inégalités de revenus. En tout cas, ces augmentations d'inégalités de revenus si on ne le faisait pas. Maintenant, là où on est beaucoup moins consensuel, c'est sur les inégalités de patrimoine. Et comme vous venez de le dire, quand les banques centrales partout dans le monde achètent des titres, alors nous, on achète essentiellement du titre public. Les États-Unis achètent en plus plus de titres privés que nous. Donc, en gros, la politique monétaire permet de soutenir le prix des actifs. Donc, concrètement, ça veut dire les indices boursiers. Et qui investit en bourse, c'est plutôt les hauts patrimoines, évidemment. Mmh. Par une politique expansionniste, on a des effets de patrimoine qui sont assez élevés, qu'on a encore du mal à mesurer, tout simplement parce qu'on n'a pas les données. On n'a pas des données aussi précises sur les revenus que sur les patrimoines. Bon, voilà, ça, il faut le noter.
C'est important de le souligner en effet. Alors il va falloir voir maintenant comment orienter ces dépenses, ces fonds massifs qui ont été débloqués afin de permettre à l'économie réelle, dite réelle, de redémarrer. On continue à en parler dans un instant.
Il était couvert de dettes, de la tête aux pieds. Chez lui venait faire la quête, tous ses créanciers. Et pour fuir ces personnages qui le torturaient, un jour sans faire de tapage, il partit pour la forêt. Au pied d'un arbre, il s'endormit, mais pendant qu'il rêvait, un oiseau tout en haut de lui, sur une branche lui chantait. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Il se dit dans son sommeil, c'est la voix de ma conscience qui me poursuit et me surveille. Je vais à mon réveil rembourser ces braves amis qui m'ont fait confiance. Non plus jamais, je me le dis, je ne veux de crédit. Paye tes dettes, disait. Paye tes dettes, l'oiseau. Paye tes dettes, allez. Il y fut tout de go. Quel souvenir, quelle belle journée, quand il régla tout ce qu'il devait depuis des années, jusqu'au dernier sou. Il se défie même de sa chemise, bon, on peut se passer de ça. Dans les bois soufflait la brise, tout joyeux il y retourna. Sous le même arbre il s'étendit, alors le même oiseau vint se poser là tout près de lui, en répétant d'un air idiot. Paye tes dettes, paye tes dettes.
Charles Trenet, paye tes dettes sur France Culture. Entendez-vous l'écho, Éric Chanel, Laure Delatte et Éric Monnet sont toujours avec nous pour parler de l'endettement public et de ses effets sur la relance de l'économie. Alors ce qu'il faut expliquer, c'est que l'économie a besoin de financement aujourd'hui. D'abord parce que le confinement a entraîné une destruction importante du capital physique et humain, Éric Monnet.
Oui, tout à fait. Ça, c'est le... Alors c'est encore très difficile à mesurer. Sur ce point, c'est-à-dire quels sont vraiment l'impact économique du confinement. Alors l'exemple qui est le plus connu, c'est celui sur les faillites, puisque en fait tout est fait aujourd'hui pour et heureusement pour aider les entreprises pour éviter qu'elles fassent faillite. Mais on va voir lors du déconfinement, et ça va sans doute pas être dans la semaine qui suit le déconfinement, mais dans les mois qui vont suivre. Si vraiment cette politique a réussi en fait à conserver cette activité. Et pour l'instant, on est vraiment dans une économie gelée et on ne sait pas vraiment quand l'économie va se rouvrir, quel va être l'état des entreprises, du système productif. Et effectivement, il peut y avoir aussi des stocks d'invendus, des personnes qui vont travailler en on a peu de sur le télétravail par exemple, on a peu aujourd'hui d'informations sur vraiment est-ce que le télétravail a été bénéfique pour certaines entreprises ou au contraire pour d'autres a fortement désorganisé l'entreprise.
Et, alors il y a quand même la Banque de France qui dit que le reconfinement devrait coûter 12% du PIB donc au mois de novembre par rapport à une activité dite normale, alors qu'en avril c'était une chute de 31%. Donc on sait qu'au moins ce deuxième confinement devrait être moins douloureux pour l'économie que le premier.
Alors ça c'est certain, et ça c'est avec des hypothèses macroéconomiques où on reprend les structures à peu près normales de l'économie qu'on aboutit à ce chiffre, et on comprend assez bien pourquoi on y aboutit, puisque le confinement est de fait moins strict. Mais sur moyen long terme, l'état des entreprises et comment elles vont ressortir après le confinement, je crois qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur cela. Il faut accepter, à mon avis, cet état de certitude et plutôt prévoir plusieurs scénarios pour essayer d'y répondre le mieux possible et ne pas se laisser surprendre en étant trop optimiste en pensant que les entreprises vont repartir du jour au lendemain au printemps 2021 comme elles étaient en février 2020.
Ce sera d'autant plus difficile qu'elles sont particulièrement endettées, ces entreprises françaises, et qu'elles l'étaient même avant le coronavirus, puisque leur dette s'établissait déjà à plus de 150% du PIB, Éric Chanet. Et alors évidemment, le Covid a accéléré ce processus.
Oui, 150% du PIB, c'est le cumul de la dette des ménages, donc qui est essentiellement immobilière, et des entreprises non financières. Mais vous avez raison, la France a une position particulière. J'ai un peu regardé les chiffres de la Banque des règlements internationaux, qui sont d'ailleurs fournis par les banques centrales de chaque pays, pour des pays un peu comparables, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les États-Unis et l'Italie. En 2005, nous étions, lorsqu'on cumule les dettes publiques et privées, à peu près tous à 200% du PIB. Je répète, en cumulant les deux. Et 2019, donc 14 ans plus tard, les derniers chiffres qu'on a, pour la France, on était monté à 313% du PIB, essentiellement à cause de la montée de la dette des entreprises, alors que la plupart des pays étaient montés à 250%, donc beaucoup moins, et que l'Allemagne faisait cavalier seul en allant dans l'autre sens avec une réduction de la dette cumulée. Et donc c'est un véritable sujet. Si les taux d'intérêt venaient à monter, à un horizon pas très proche, mais quand même envisageable, ce serait plus un problème pour les entreprises en France que pour l'État, qui a toujours la possibilité de se refinancer. D'ailleurs, les États, à la différence de la chanson de Charles Trenet, eux, ne remboursent jamais leur dette puisqu'ils empruntent pour la rembourser, ce qui n'est évidemment pas le cas des entreprises qui, elles, peuvent faire faillite. Et donc c'est un sujet qui est assez sérieux et qui doit être considéré dès maintenant, même si bien entendu il serait catastrophique de vouloir réduire la dette des entreprises aujourd'hui. Nous sommes dans une situation qui est encore une situation d'urgence.
Et justement face à cela, pour soutenir les entreprises, des prêts garantis par l'État ont été mis en place. C'est un dispositif qui a été prolongé jusqu'au 30 juin 2021 et qui a été et qui va être encore déterminant pour beaucoup d'entreprises, Anne-Laure Delatte.
Oui, en fait, ce que nous a montré cette crise, c'est vraiment un retour de l'État. Et on n'a pas eu le choix, puisque tous les gouvernements des pays avancés l'ont mis en place, qu'ils soient de droite ou de gauche. Il faut quand même reconnaître que l'État a été l'acteur indispensable pendant la crise. Et en fait, il s'est substitué au marché. On dit qu'il a joué le rôle d'acheteur en dernier ressort. C'est-à-dire que plus personne ne consommait, puisqu'on était tous enfermés et on continue à l'être. Et l'État s'est substitué à cette demande en donnant du chômage partiel aux ménages et en prêtant de l'argent aux entreprises pour qu'elles puissent faire face à leurs dépenses. Maintenant, on peut mettre en place... ça a été vraiment remarquable. Et donc ces PGE, ces prêts garantis par l'État, ont été un mécanisme absolument essentiel. Maintenant, la question, c'est quand est-ce qu'on va devoir rembourser et si on va pouvoir le faire. Et il est possible qu'en réalité, les PGE, une partie des PGE ne soit jamais remboursée, c'est-à-dire que en réalité, on aide plutôt la recapitalisation de certaines entreprises. Ce qui veut dire simplement, vous ne demandez pas à la personne endettée, enfin pardon, à l'entreprise endettée, vous ne lui demandez pas de le rembourser. Vous l'aidez à se recapitaliser, c'est-à-dire à récupérer du capital pour faire face à ses dépenses courantes.
Mais là, on a besoin d'investisseurs. Et le problème, c'est qu'on l'a dit, les investisseurs se tournent davantage vers des obligations d'État que vers des capitaux propres qui sont plus risqués, Anne-Laure Delatte.
Alors oui, clairement, les investisseurs, ce qu'on a compris, c'est que les ménages riches dont je parlais tout à l'heure, ceux qui ont accumulé de l'épargne depuis 40 ans, finalement, on est assez déçus par le système financier actuel, puisque l'épargne qui devrait être transférée des riches vers le capital productif des entreprises, ça ne fonctionne pas très bien. On ne comprend pas encore très bien pourquoi ça ne fonctionne pas très bien, mais il est possible qu'on soit face à des situations monopolistiques où finalement les entreprises n'ont plus besoin de s'endetter tant que ça, d'investir tant que ça. Bon, alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe du coup que ces ménages riches vont acheter pas mal de dettes publiques ou de la dette privée, mais des ménages. En fait, les riches financent la consommation des pauvres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui là, sans pouvoir complètement réparer le système ? Ce qu'on peut se dire à ce moment-là, c'est que si l'État est capable de s'endetter à un prix très bas, alors, continuons la substitution et prolongeons ce qu'a commencé la crise, c'est-à-dire un retour de l'État, mais là avec
directement au capital des entreprises.
En tout cas, pas comme dans les années 60. Je pense qu'on n'est plus exactement dans la même économie. Hein. Et puis on a changé de personnel politique. On n'a plus du tout les mêmes logiciels en fait en tête. En revanche, on voit bien qu'on va revenir probablement. En tout cas, on a besoin de revenir à une planification environnementale, sociale, pandémique, une planification centralisée parce que tout simplement le marché n'est pas capable de se coordonner autour d'enjeux aussi centraux. Donc
qu'on entende Éric Chanet sur ce point, parce que je pense que il ne sera pas tout à fait d'accord, Éric Chanet, sur cette idée d'un État qui investit directement au capital des entreprises là où le marché a peut-être failli.
Oui, moi je voudrais revenir un petit peu sur cette question de l'allocation de l'épargne, parce que c'est pas simplement une affaire de riches et de pauvres. L'épargne est gérée dans la plupart des pays, alors c'est pas le cas de la France et de l'Italie, l'épargne est largement gérée par des fonds de pension professionnels. Donc les gens, pour leur retraite future, confient, il y a une partie de leur salaire qui va aux fonds de pension, et ces fonds de pension investissent, et là, ils cherchent à avoir le meilleur rendement possible. Et donc ce sont des professionnels, ils n'ont pas d'autre motivation que de payer les pensions futures. Mais ils font face à des règles prudentielles qui sont extrêmement importantes et qui sont encore plus contraignantes dans l'Union européenne que ce n'est le cas, par exemple, aux États-Unis. Et ces règles prudentielles, d'ailleurs, que Anne-Laure Delatte avait évoquées à un moment, consistent en gros à dire « vous ne prenez aucun risque, on ne vous demande pas de conditions particulières si vous investissez dans les dettes publiques. Par contre, si vous investissez dans des actions, qui sont des actifs risqués, parce que les actions, ça monte, ça descend, et quelquefois, ça tombe à zéro, alors là, il faut que vous mettiez du capital lorsqu'il s'agit, par exemple, des sociétés d'assurance, où vous avez beaucoup plus de limites si vous investissez dans les actifs risqués. » Donc, on peut dire d'une certaine manière que nous avons une réglementation prudentielle qu'on peut comprendre. Il faut de manière protéger l'épargne des gens. Mais on a une réglementation prudentielle qui réduit l'investissement risqué, qui est donc l'investissement des entreprises.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des exigences de rentabilité qui sont du capital qui sont trop élevées? Ça, c'est ce que dit par exemple l'économiste Patrick Artus, Éric Chanet, des exigences de rentabilité trop élevées qui empêcheraient des investissements productifs.
Oui, enfin, Patrick Artus sait comme moi que les objectifs qui sont fixés ne sont pas forcément ceux qui sont atteints, que les entreprises se fixent des objectifs, elles sont en concurrence pour attirer des capitaux, elles affichent des objectifs à 15%, ou à 17% ou à 18%, et si elles en réalisent 8 à 9%, elles sont bien contentes. La question, c'est vraiment l'allocation de l'épargne. Donc en France, le problème, il est un peu différent, puisque c'est essentiellement l'assurance-vie. Mais vous remarquerez que pour l'assurance-vie, il y a une forte préférence, mais là, ce sont des gens eux-mêmes, pour que leur épargne ne perde pas de sa valeur et donc pour en mettre le moins possible en action. Et donc il y a bien quelque chose qui ne marche pas dans le système et je rejoins Anne-Laure Delattre là sur ce point. L'épargne ne va pas assez dans le financement des entreprises, mais il me semble quand même que toute la réglementation prudentielle porte une certaine responsabilité là-dedans. Aux États-Unis, la question est un petit peu différente, où le financement est beaucoup plus de marché et où les fonds de pension vont beaucoup plus en action qu'ils ne le font en Europe.
Éric Monnet, qu'est-ce que vous pensez
de l'économie, du coup.
Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que l'on sécurise trop l'épargne et que cela se fait au détriment des investissements ?
Alors, sur cette idée d'épargne trop sûre, si vous me permettez, je vais faire un petit détour historique, alors pas retourner jusqu'à la Révolution française et Étienne Clavière, mais je pense que c'est utile de parler des années 30 et de la Grande Dépression. Parce que vous parliez tout à l'heure des banques centrales. S'il y a quelque chose qui a très fortement motivé la réaction extrêmement forte des banques centrales depuis la crise de 2008, qui continue aujourd'hui, c'est justement ce qu'on avait appris de la Grande Dépression des années 30. C'est qu'en 1930, suite au crash de 29 et aux crises bancaires qui suivent, les banques centrales, maintenant on le sait, n'avaient pas réagi. Et au contraire, elles disaient « Ah même, très bien, il faut que les entreprises les moins performantes disparaissent, augmentons les taux d'intérêt. » Ça a été désastreux. On l'a appris, et la politique des banques centrales aujourd'hui se justifie par cette peur de revenir à cette situation de la Grande Dépression où les banques centrales avaient été défaillantes. Mais sur les années 30, il y a aussi une autre politique qu'on avait moins observée, maintenant on commence à mieux connaître, qui a été aussi une erreur très importante. Et c'était justement l'absence de politique d'allocation de l'épargne. Car qu'est-ce qui se passe dans les années 1930 ? Suite aux crises bancaires, notamment, les gens accumulent énormément d'épargne puisqu'ils ont peur. Il y a du chômage, il y a des dettes, il y a ces crises bancaires. Et donc, que ça soit en France ou dans tous les pays du monde, les gens, en tout cas les plus riches, ceux qui ne sont pas touchés par le chômage, accumulent cette épargne. En France, c'est dans les caisses d'épargne, donc l'équivalent du livret A ou l'assurance vie aujourd'hui, de l'épargne régulée, très sûre. Et ces caisses d'épargne, justement parce qu'elles sont sûres, elles ont comme obligation d'investir uniquement dans la dette publique pour justement rester sûres. Et à cela, il y a d'énormes débats dans les années 30, où on dit mais comment utiliser cette épargne ? Et la réponse de l'État français à l'époque, en tout cas avant 36, ça va être de sécuriser encore plus cette épargne et donc de refuser toutes les propositions des parlementaires pour que cette épargne finance les entreprises et de refuser tout grand plan d'investissement public. Et au contraire, d'accumuler, alors notamment par la Banque centrale, mais de l'or. C'est comme si aujourd'hui l'État français se disait « Ah ben on s'endette et on va accumuler des dollars pour montrer qu'on est un pays très très sûr ». Ça paraît caricatural, mais dans certains pays dans le monde, on n'en est pas loin par cette accumulation de dollars pour montrer qu'on est sûr. Et cette politique complètement folle, complètement défaillante de l'épargne des années 30, je pense qu'il faut la garder en tête, parce que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et tout ce qui a été le New Deal ensuite, mais aussi les politiques de relance des années à l'après-guerre des années 50-60, ça a été justement se construire contre cette idée d'accumuler de l'épargne, que l'État soit obsédé par rendre cette épargne encore plus sûre, ne veuille pas que cette épargne arrive les entreprises, et puis que l'État lui-même n'ose pas investir. Et sur ce point, c'est vrai qu'il est important, je rejoins Chanel Landela, de réinjecter du risque. Il faut réinjecter du risque. Alors, est-ce qu'il faut le faire par les entreprises ? Est-ce que c'est l'État lui-même qui est le mieux à même ? Je pense que c'est là l'enjeu du débat aujourd'hui.
France Culture, entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Laure Delattre, Éric Chanet, Éric Monnet pour parler de l'endettement public et de ses effets sur la relance de l'économie. Alors effectivement, est-ce qu'il faut mobiliser l'épargne? Et si oui, comment? On l'a fait dans le passé, notamment pour financer la guerre. Éric Monnet, est-ce qu'il pose cette question? Est-ce qu'il est possible de mettre en place un circuit de financement des dépenses publiques indépendamment du marché? La réponse est oui, vous nous dites, Éric Monnet.
Alors, ce circuit, il existe déjà en partie en France. Ça s'appelle le livret A. C'est-à-dire que là, c'est quand même, on dit souvent que c'est l'épargne préférée, c'est l'épargne populaire, l'épargne préférée des Français. Alors, sur le total de l'épargne, ça représente loin d'être la majorité, mais par contre, c'est l'épargne où une grande majorité des Français, ont un livret A. Et cette épargne, c'est une épargne réglementée qui ne va pas financer de la dette publique. C'est fut le cas par le passé, mais maintenant ce n'est plus le cas, mais elle va financer des investissements qu'on assimile à des investissements publics. C'est-à-dire que c'est la Caisse des dépôts qui gère ce livret A et qui, en utilisant ses fonds du livret A, va faire des investissements qui, même s'ils ne sont pas comptabilisés comme investissements de l'État dans la comptabilité nationale, sont de fait des investissements publics, que ça soit de la rénovation thermique des aliments, mais aussi de la voirie, et puis du logement social. Donc, ce type de financement, vous voyez, je pense que c'est important à rappeler, puisqu'il faut, il faut sortir d'un débat où ça serait les étatistes contre les grands libéraux. C'est-à-dire qu'il y a des structures aujourd'hui institutionnelles de l'économie qui existent, et notamment ce type de livret A par la Caisse des dépôts, qui comptent, qui sont très importants en France, et qui sont une manière de financer l'investissement public ou quasi-public, et qui existe. Et dans cette période, on ne peut pas faire sans.
Mais est-ce que c'est vraiment suffisant, Anne-Laure Delatte? Est-ce qu'il ne faudrait pas donner justement plus de pouvoir à la Caisse des dépôts, ou est-ce qu'il faut, au contraire, pour permettre aux entreprises d'investir, continuer, comme l'État le fait, à baisser leurs impôts? Ce sont deux voies possibles, finalement.
Oui, vous posez la question. Là, vous posez vraiment la question de la politique budgétaire. Et qu'est-ce que, en fait, si vous baissez le taux d'imposition des sociétés, qu'est-ce que vous allez faire? On n'est pas sûr que ça va vraiment relancer l'investissement s'il n'y a pas de demande. Hein, c'est ça le problème, c'est que vous pouvez essayer de rendre les entreprises plus compétitives, plus attractives, mais s'il n'y a pas de demande, c'est un puits sans fond. Et en particulier, alors pas sur l'impôt sur les sociétés, mais sur l'impôt sur la production, pour le coup, la littérature a tendance à montrer que ça n'a pas beaucoup d'effet sur les investissements. Donc, si vous baissez...
Vous parlez de la suppression des impôts de production qui a été décidée récemment.
Bah oui, les fameux 10 milliards qui ont été donnés aux entreprises et qui et sans contrepartie. En fait, moi, ce que je vois dans la littérature, c'est que ça n'a pas beaucoup d'effet sur les investissements. Donc, je suis un peu étonnée qu'on prenne cette décision-là. En tout cas, on ne la prend peut-être pas pour des raisons justes, économiques et basées sur des raisonnements avec des données. Mais si c'est le cas, alors, mais il faut absolument compenser ça par d'autres impôts, d'autres ressources fiscales, puisque vous avez en fait une tendance à la baisse des impôts, des revenus sur tout ce qui est mobile depuis 40 ans. Et le capital est beaucoup plus mobile que votre salaire ou le mien. Vous avez en fait une baisse des ressources fiscales tirées de cette base très mobile, qui fait qu'en face, vous avez des États qui ont de plus en plus de mal à faire face à des enjeux du type hôpital public qui fonctionne et qui est capable de nous protéger contre une pandémie, ou éducation, système d'éducation efficace qui nous permet d'avoir du capital humain efficient.
Donc pour vous, on ne pourra pas faire l'économie d'une hausse d'impôts?
Alors moi, je suis plutôt... Alors sur une épargne mieux dirigée et planifiée, ou en tout cas où on incite une épargne à aller vers soit de l'investissement public, soit de l'investissement privé, mais vers de l'investissement privé qui va nous permettre de réduire nos émissions carbone. Oui, enfin, il faut réfléchir à des outils qui nous permettent de faire ça. Et comme le disait Éric Monnet à l'instant, on les a déjà. En fait, on peut mettre en place des produits financiers assez simples qui permettent de diriger l'épargne vers des investissements qui soient soutenables pour dans des objectifs sociaux ou environnementaux. Ça, c'est le premier point. Et ensuite. Je pense qu'on ne pourra pas se passer d'une réforme fiscale qui viserait, un, à réduire les inégalités qui sont responsables de cette accumulation d'épargne dont on a parlé au début, qui baisse le potentiel de l'activité économique, qui baisse la demande, qui font baisser les prix. Et c'est probablement la raison pour laquelle on n'arrive pas à faire redémarrer la machine économique. On est en train de le comprendre. Donc il nous faut une réforme fiscale pour ça. Et la deuxième raison, c'est qu'il nous faut des ressources budgétaires très importantes pour faire face aux enjeux de la prochaine décennie. Parce qu'après une crise pandémique, on va avoir à faire face de plus en plus à des crises liées au réchauffement climatique et à la détérioration de la biodiversité.
Éric Chanet, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'un État qui investirait davantage et qui planifierait? Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée à l'heure notamment de la transition énergétique et de la nécessité de réaliser des investissements verts?
Oui, moi je pense que l'État devrait beaucoup plus investir, mais pas forcément en fléchant l'épargne, pas forcément en investissant dans des investissements verts, mais par exemple en investissant beaucoup plus massivement dans la recherche et dans la recherche fondamentale. La recherche, c'est ce qui a le taux de rendement social de loin le plus élevé de tous les investissements publics qu'on puisse imaginer. Je rappelle qu'un théorème de mathématiques ou une découverte en physique, il n'y a même pas de dépréciation, ça sert toujours, le théorème de Pythagore marche toujours aussi bien. Et nous sommes dans une situation de déficience d'investissement dans la recherche. Alors la recherche, c'est ça qui nous permettra d'avoir la croissance dans le futur, d'avoir de la productivité. Vous pouvez remarquer que pour se mettre d'accord sur le plan de relance européen, qui est d'ailleurs une très très bonne chose, eh bien on a rogné sur les dépenses de recherche fondamentale. Donc oui, je suis un petit peu surpris de ça. Je pense que l'État devrait investir beaucoup plus au niveau européen et au niveau français dans la recherche. Est-ce qu'il y a un problème de financement de l'État? Ben non. Aujourd'hui, l'État se finance à des taux négatifs. C'est-à-dire que lorsque l'État emprunte 100, il me dit d'avance, ben je vous rembourserai pas 100 et vous êtes bien content quand même de me prêter. Donc le problème n'est pas véritablement le financement. Et si on commence aujourd'hui à se poser la question de comment va-t-on rembourser cette dette Covid dans le futur, on ne coupera pas des hausses d'impôts, je crains que ce soit la meilleure manière de convaincre les gens qui ont accumulé de l'épargne pendant les cessations d'activité qui ont été subventionnées par l'État. Hein. La Banque de France nous dit, enfin l'INSEE nous dit que c'est de l'ordre de 200 milliards d'euros. Eh bien, c'est la meilleure manière de les convaincre de ne pas dépenser cet argent et donc de ne pas contribuer à la reprise de l'économie. Mais alors, pour revenir sur la question des investissements publics et du fléchage de l'épargne, alors on le fait déjà pour le logement social, etc. Mais je pense qu'il faut se poser la question de l'efficacité économique. Je vais vous donner un exemple. Dans le plan de relance français, il y a une poursuite des subventions aux véhicules électriques. Alors, les gens qui ont fait les calculs s'aperçoivent que ceci revient à subventionner la tonne de gaz carbonique de CO2 évité à hauteur de 150 à 200 euros. Ce qui est complètement absurde, puisque avec une taxe carbone à 45 euros, les gens protestent. Et donc on arrive là à une très mauvaise allocation, si je puis dire, de l'argent public. Est-ce qu'il serait quand même pas plus intelligent de passer au niveau européen, puisque c'est le seul cadre qui aurait un sens, à une véritable politique de prix du carbone qui à la fois modifierait les comportements et en même temps aboutirait à une réallocation d'investissement vers les technologies qui sont les plus économes en émissions de carbone.
Une politique du prix du carbone qui est un peu l'arlésienne. Éric Chanet, effectivement, ça fait très longtemps que les économistes demandent cela.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et que les politiques disent, ben vous voyez, quand on fait ça, on a les gilets jaunes. Il n'empêche que dans le programme initial de Joe Biden, ça y était. Il n'empêche qu'aujourd'hui, les écologistes allemands y sont favorables. Et que dans la plupart des pays de l'Union européenne, il y a des prix du carbone qui montent déjà à près de 100 euros la tonne de carbone en Suède. Et que petit à petit, on y va. Pas pour tous les secteurs, mais on y va. Et donc, il doit y avoir une articulation intelligente entre les mécanismes de marché qui permettent d'avoir une bonne allocation de l'épargne vers là où c'est nécessaire. Et je persiste que les normes prudentielles sont trop sévères pour ce qui est risqué. Et d'investissement public là où le privé n'investira pas. C'est-à-dire la recherche mathématique, mise à part quelques exceptions vraiment rares, n'est pas financée par les entreprises privées. La recherche fondamentale ne l'est pas, que ce soit en biologie, que ce soit en physique, que ce soit dans d'autres sciences. Là, l'État ne fait pas assez.
Et en même temps, ce que l'on constate, c'est que l'assurance vie, l'autre placement préféré des Français avec le livret A, si on veut, a de moins en moins de succès. De quoi cette baisse de régime d'une assurante qui est une assurance qui était garante autrefois de sécurité, mais aussi de rendement, est-elle le nom, selon vous, Éric Monnet?
L'assurance vie, aujourd'hui, elle a moins de succès, relativement justement à des placements très liquides comme le livret A, du fait que son taux a largement baissé pour les raisons qu'on a évoquées pendant cette émission, que l'assurance vie, en grande partie, est consacrée sur les fonds en euros à la dette publique, et la dette publique, le rendement de la dette publique baisse. Donc le taux de ces assurances-vie, parce qu'on est quand même dans des placements qui sont pas très liquides, devient extrêmement bas pour une rémunération d'épargne voilà, qui reste bloquée, enfin, quasiment bloquée une partie du temps. Mais sur ces questions d'investissement, effectivement, je pense qu'il faut rappeler là encore comment le débat a tellement changé en une dizaine d'années. C'est-à-dire que sur deux points, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'importance de l'État dans ces questions, et je crois qu'on ne peut pas l'éviter, quoi. C'est unanime. L'État est redevenu tellement central que le débat ne le nécessite pas. Est-ce qu'il faut de l'investissement public ou est-ce qu'il n'en faut pas, quoi. Le débat est directement, comme le rappelait Eric Chanet, dans quel type d'investissement public il faut. Et là, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il disait sur l'importance de la recherche. Et effectivement, sur l'investissement vert, dit vert, là encore, on peut faire tout et n'importe quoi. Donc, il est important d'avoir des choses très clairement expliquées, des débats sur ces questions, sur l'investissement vert. Et le deuxième point, c'est là encore sur la nécessité d'investissement pour faire baisser l'empreinte climatique de nos économies est très important. Et c'est très important parce que là encore, ça change complètement les termes du débat qu'on est en train d'avoir. Il y a encore quelques temps, on pouvait dire, on ne sait pas quels sont les critères pour juger si l'épargne est bien allouée ou est pas très bien allouée. Et c'était toujours le même débat. Alors que là, quand même, il y a un critère qui s'impose complètement, qui s'impose à nous, qui est de dire, là, en fait, soit on est aveugle, soit on se rend compte qu'il y a un critère qu'on voit, les activités économiques aujourd'hui sont plus soutenables. Mmh. Et donc ça, ce simple critère-là, il se rend compte que l'épargne est de fait aujourd'hui mal allouée dans l'économie. Et donc ça rechange complètement, et on est au début de la prise de conscience. Mais les termes du débat ont complètement changé.
Anne-Laure Delade, un dernier mot sur effectivement ces termes du débat qui ont changé, cette économie nouvelle à laquelle on fait face et à cette nécessité aujourd'hui d'investir dans la transition écologique qui fait aujourd'hui l'objet d'un certain consensus, même si parfois les actes peinent à suivre les paroles.
Oui, il me semble que la question, c'est pourquoi les actes mettent tant de temps à suivre les paroles. Et là, il me semble qu'une réponse intéressante, c'est de comprendre comment s'articulent les groupes sociaux et les intérêts divergents dans une économie, dans une société. Et vous avez, on est vraiment au cœur du système de l'économie de marché, où vous avez des intérêts économiques qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général. Donc pour le dire plus simplement, pourquoi on ne va pas tout de suite mettre en place les mesures qui vont rendre les investissements verts plus rentables que les investissements bruns, mais parce que 80% de notre économie est basée sur des secteurs bruns, c'est-à-dire des secteurs polluants, et donc on va aller contre des intérêts aujourd'hui dominants. Donc c'est possible, mais il faut vraiment mener une réflexion sur comment est-ce qu'on va bousculer ces intérêts en place.
Et sans doute faut-il plus de volonté politique. On va voir si c'est ce à quoi on va assister du côté des États-Unis, mais aussi du côté de l'Union européenne. Un grand merci à tous les trois, Anne-Laure Delatte, Éric Chanet et Éric Monnet, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez coordonné, Éric Monnet, Euro, les années critiques, paru aux Presses universitaires de France, un livre et d'autres encore sans lesquels cette émission n'aurait pas existé en tant que telle. Vos émissions sur France Culture s'appuient toutes au quotidien sur des essais, des romans, des ouvrages qui nourrissent notre réflexion et notre imaginaire. Merci encore à tous les trois d'avoir partagé vos analyses avec nous. C'était Entendez-vous l'écho, une émission préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anna Holweck. À la technique aujourd'hui, Laurie Vachon. Demain, premier épisode de notre série consacrée aux indépendants. On se penchera sur l'histoire des professions libérales, avocats et médecins. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et nous retrouver sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Must be acting crazy, but